Sud Radio 10h midi, Valérie Expert, débat.
Et on se retrouve dans un tout petit instant pour les débats. Mesures sanitaires, on n'y comprend plus rien. Est-ce qu'il y a trop d'affolement, comme le dit le professeur Raoul? On va revenir également sur l'attaque au couteau contre Charlie Hebdo, une menace terroriste qui est bel et bien là. Et pourquoi le président de la République ne s'est-il pas exprimé? On y revient dans un instant avec vous et avec les débatteurs. À tout de suite.
Sud Radio 10h midi, Valérie Expert, débat.
Avec vous sur Sud Radio, bonjour à ceux qui nous rejoignent et je suis aujourd'hui pour commenter l'actualité avec Jean-Luc Benamias depuis Marseille. Bonjour Jean-Luc. Bonjour, je ne vous entends pas. Pascal Bataille, bonjour à vous. Vous êtes avec nous depuis le Sud-Ouest. Benjamin Cauchy, porte-parole de Debout la France. Et Sophie Monton, chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique. Bonjour à vous.
Bonjour tout le monde.
Alors, Covid, trop d'affolement, mesures sanitaires, on n'y comprend plus rien. Vous avez entendu nos différents intervenants peut-être ce matin qui ne comprennent pas la fermeture des cafés à Marseille, la fermeture des salles de sport. Et en même temps, tous ces gens nous disent « je mets du gel, je mets le masque ». Donc là aussi, il y a une petite contradiction sur laquelle on va sûrement revenir. On va parler de l'attaque au couteau contre Charlie Hebdo, enfin ou plus précisément au hachoir de boucher. Et on va revenir sur cette menace terroriste qui est toujours extrêmement forte en France. Commençons par notre petit tour de table de ce qui a retenu votre attention. Pascal Bataille, commençons avec vous, c'est un coup de cœur.
Un coup de cœur pour les libraires, oui Valérie, les libraires qui retrouvent un petit peu le sourire. On a eu des chiffres très rassurants ces derniers jours sur la fréquentation des librairies qui est en hausse notable depuis la fin du confinement et on ne peut que s'en féliciter évidemment parce que on pourrait penser si on était totalement complotiste que le Covid a été créé par Amazon, Netflix et Apple. Bien évidemment, ce sont les entreprises qui ont profité de cette période abominable et les libraires étaient sortis du confinement exsangues, on s'en doute, et très inquiets et on ne peut que se réjouir de voir que les Français notamment reprennent le chemin des librairies, ont à nouveau cette envie non seulement de lire, mais ça ils l'avaient fait pendant le confinement, mais de toucher les livres, d'acheter les livres chez les libraires, là où on peut les consulter, là où on peut discuter des livres et je sais votre attachement, vous Valérie, au libraire et je pense que tous nos invités également, voilà, donc c'était un petit coup de cœur pour les libraires et pour tous les lecteurs.
Et pour les Français qui sont retournés dans les librairies, effectivement, qui sont retournés dans les...
En regrettant infiniment qu'on ait confiné les libraires, parce que les boulangeries étaient ouvertes, les pharmacies, bien sûr, c'est normal, les commerces de bouche, l'alimentation...
Non. Les libraires étaient favorables au confinement parce qu'ils expliquaient que c'était extrêmement difficile d'empêcher les gens de toucher les livres à l'époque, en tout cas où il y avait cette contamination. Donc, pour avoir parlé avec plusieurs libraires, ils étaient tout à fait d'accord avec la fermeture. Assez curieusement.
Moi, aussi, j'avais l'impression. Tout le monde peut se tromper.
Valérie.
Oui.
Valérie.
Jean-Luc.
Certes, on aurait pu ne pas ouvrir totalement les librairies, mais il suffisait de mettre une table devant la librairie et les clients n'auraient pas touché les livres, ils auraient pu les commander et y aller. C'était quand même relativement simple.
Bien sûr.
Oui, enfin, c'était d'après les libraires, c'était quand même une usine à gaz, hein, justement, ce genre de choses. Il y avait eu des fils. Ce qui aurait été plus simple, c'était peut-être que la poste fonctionne et que les libraires puissent envoyer les livres par la poste, qu'ils n'ont pas pu faire parce qu'il y avait un certain nombre enfin que la poste ne fonctionnait pas. On a un auditeur il y a quelques jours qui m'avait envoyé un message en me disant « Aujourd'hui, la poste de mon quartier va fermer ». C'était il y a quelques jours. Hein. Ce qui fait que dans un quartier du 9-3, du 93, il nous reste un seul distributeur pour tout un quartier. C'est vrai que voilà, avec Sophie, on a déjà épinglé la poste, mais on peut continuer. Moi, je reçois du courrier tous les trois jours, donc je ne sais pas pourquoi. Et les libraires me donnent l'occasion de faire ce coup de gueule parce que pour encore une fois avoir discuté avec eux, ils n'ont pas pu mettre en place un système d'envoi par correspondance parce que la poste ne fonctionnait pas. Voilà, donc je pense que je vais recevoir un coup de fil de la poste, mais c'est pas grave, c'est dit, et je pense que tout le monde a constaté ces dysfonctionnement régulier, permanent et persistant. Pardon, Sophie ?
C'est bien, ce qui prouve que la Poste écoute Sud Radio, ils ont un petit peu de temps, c'est bien.
Voilà. Jean-Luc Benamias, c'est un coup de gueule ?
C'est un coup de gueule. C'est un coup de gueule relativement dramatique, hein, qui dure depuis longtemps, malheureusement. La situation au Haut-Karabakh. Alors, on dit Artsakh. Ouais. Alors, pour ceux qui ne savent pas, le Artsakh ou le Haut-Karabakh, c'est une région concomitante à l'Arménie qui se situe à la limite de l'Azerbaïdjan. Et globalement, on est reparti dans un conflit armé relativement lourd. Il y a eu plusieurs dizaines de morts ce week-end. Et globalement, là-dedans, le coup de gueule est surtout sur le fait que l'espace de la Turquie dans ces régions-là, mais au sens large du terme, continue à développer un hégémonisme total, que ce soit en Azerbaïdjan, que ce soit en Libye, que ce soit en Irak, que ce soit en Syrie, et que ce soit en Grèce, on l'a vu dans les dernières semaines. Voilà. Globalement, pour cette petite région de dépendant plus ou moins de l'Arménie, même si le Haut-Karabakh a annoncé son indépendance il y a quelques années, il y a un groupe qui réunit, ça s'appelle le groupe de Minsk, qui réunit États-Unis, Russie et la France pour essayer de légiférer par rapport à cela et de tempérer notamment l'attitude de l'Azerbaïdjan. Ça ne marche pas à tous les coups, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà, c'est un coup de gueule par rapport à l'hégémonie turque dans cet espace.
Et dont on parle assez peu dans les médias français, il faut bien le dire.
Hier, zéro, que dalle.
Zéro, ouais. Benjamin Cauchy.
Oui, bonjour Valérie et bonjour à tous. Moi, mon coup de cœur, c'est pour une entreprise française qui réussit bien malgré une mondialisation sauvage et une crise économique extrêmement forte. C'est l'entreprise Gautier, qui est un fabricant de meubles français, qui a 850 salariés, qui est 120 millions d'euros de chiffre d'affaires, notamment à l'international, et qui a annoncé qu'elle allait créer un quatrième site de production en France, en Vendée, qui va être évidemment créateur d'emplois et qui est basé sur l'innovation, l'agilité. Ils ont mis en place un logiciel avec Dassault System qui va permettre de personnaliser les meubles dans les magasins. Et donc, ils vont créer un quatrième site de production en France. Donc, le Made in France, ça fonctionne. Allier l'emploi et la nouvelle technologie, ça fonctionne. Et puis, deux autres points par rapport à cette entreprise qui m'a interpellé. La première, c'est qu'ils ont décidé de se réimplanter dans les centres-villes, de quitter un petit peu les périphéries, les grands centres commerciaux et de redonner de la vie dans les centres-villes des petites, moyennes et grandes agglomérations. Et puis enfin, c'est une entreprise qui a décidé de devenir une entreprise apprenante en formant l'ensemble de ses salariés aux nouveaux métiers, aux nouveaux matériaux pour être toujours à la pointe. Donc moi, ça me fait plaisir. J'ai grandi, mon papa était un vendeur de meubles, donc vous voyez, j'en suis particulièrement touché. Mais plus sérieusement, voilà, ils vont créer de l'emploi en France. Et puis avec le confinement, vous parliez des libraires tout à l'heure, une fois qu'on a acheté des bouquins, il faut les mettre dans une bibliothèque. Et donc voilà.
Pourtant, c'est un secteur qui souffre beaucoup, hein, celui du meuble. C'est assez compliqué pour eux. Mais cocorico et bravo aux entreprises françaises, effectivement, qui créent de l'emploi et qui relocalisent. Alors, Sophie. Sophie de Menton.
Ah, ce serait drôle si ce n'était pas un peu triste. Je voudrais piquer un coup de gueule contre Esther Duflo et l'autre prix Nobel, Abhijit Banerjee, un peu difficile à prononcer son nom, et des prix Nobel qui, étant donné qu'on est prix Nobel américain, enfin aux États-Unis en plus, on doit avoir des idées sur tout, et ils ont suggéré de confiner pour ne pas avoir à confiner. Je m'explique, il faut confiner avant Noël pour ne pas avoir à confiner au moment de Noël. Donc, ça veut dire qu'ils sont attribués tous les pouvoirs. Et ce qui est extraordinaire, c'est que c'est repris non-stop par la presse française. Alors, je me suis posé deux questions. Premièrement, de quoi ils se mêlaient, et cette anticipation me semblait absurde. Ils usurpent leur compétence incontestable, certainement d'économistes, pour faire peur aux gens, paniquer, annoncer un confinement qui n'est pas prévu en France, expliquer que les fêtes de Noël devaient être passées en famille, et à ce moment-là, pourquoi pas les autres religions. Donc déjà, c'était complètement aberrant. Heureusement, obligé d'être démenti par le ministre de la Santé. Enfin, j'espère que ce sera démenti et qu'on n'aura pas le confinement de toute façon. Mais je me posais quand même la question, Valérie, Ça a été repris par tous les médias, les journaux, la presse écrite, les télés, les radios. Deux prix Nobel disent qu'on va confiner 15 jours avant Noël. Qu'en pensez-vous? Est-ce qu'il n'y a pas un moment? Non, mais je dis ça en toute. C'est pas un jugement, hein. C'est une question que je me pose personnellement. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où il ne faudra pas un tout petit peu faire le tri de ce type d'infos?
Mais j'ai peut-être. Oui, mais c'est pas. J'ai envie de vous dire, ce sont deux prix Nobel. C'est pas n'importe qui. Donc on peut se poser la question de savoir si ce qu'ils disent est censé ou pas.
Alors,
en quoi est-ce que nous on est aptes à juger?
Alors d'abord, est-ce que un professeur de médecine absolument génial doit donner son avis sur la façon dont les PME commercialisent les meubles en bois? Bon. Je veux dire qu'à partir du moment aujourd'hui où on est un peu célèbre, où on a des compétences, et je respecte les compétences dans tous les domaines, on a le droit de donner son avis sur le Covid, le confinement, la façon dont on se comporte. C'est hallucinant et c'est une autre question parallèle à cela. Est-ce que les médias doivent relayer de la même façon ces théories? Je n'ai pas la réponse.
Je ne sais pas qui est Pascal Bataille.
Bon, je répondrai à Sophie avec laquelle je partage beaucoup d'idées, hein, mais que pour le coup, c'est ce qu'on fait nous, de donner notre avis à longueur de temps dans cette émission. Et je ne sais pas si on est plus compétent qu'un prix Nobel.
Mais
on est modeste.
En revanche, on essaie peut-être d'être un petit peu moins radicaux dans nos prises de position. Et effectivement, j'ai été comme Sophie choqué par cette annonce de ces deux prix Nobel d'économie qui disent que la seule solution pour éviter une crise à la fois sanitaire et économique plus grave en début d'année 2021, ça serait de nous remettre chez nous enfermés pendant 3 semaines. Au mois de décembre, je pense que quand on est prix Nobel, peut-être qu'on a encore plus de responsabilités qu'un autre pour ne pas affoler les populations et pour ne pas prendre des positions aussi radicales, relayées évidemment par tout le monde et par tous les médias, qui ne font que participer de l'affolement général.
Oui. Jean-Luc, ou peut-être Benjamin Cauchy.
Oui, je veux bien.
Oui.
J'ai décidé la façon dont ça a été suivi, hein, comme Sophie. Hein, je veux dire, comment. Ça a pu être autant repris parce que, en fait, j'ai écouté ça sur, je pense, c'est sur France 2 hier soir. Je les écoute et je les respecte, hein, le prix Nobel d'économie important. Et ils nous disent, on va fermer 3 semaines pour pouvoir ouvrir le 23 et le 24. Alors, pendant 3 semaines, on ne fait pas de dépenses, mais pour pouvoir faire des dépenses et se réunir en famille le 23 et 24. C'est assez contradictoire, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est pas très abouti comme justification, ça me paraissait hier soir assez. Voilà. Alors, ce qui est étonnant, effectivement, c'est que c'est repris partout. Voilà. Après, on n'est pas obligé de les écouter. Hein.
Oui.
Alors, Benjamin Cauchy.
Oui, alors, écoutez, moi, Jean-Luc, je ne suis pas d'accord. Je ne pense pas que les gens vont consommer le 23 et 24 décembre. Je partage l'inquiétude de Sophie de Menton. Les gens, s'ils sont confinés les 3 premières semaines de décembre, vous savez que les Français touchent principalement leur 13e mois fin décembre. Je peux vous assurer que Amazon et compagnie vont être ravis que les Français dépensent auprès des GAFA. Et là, je pense encore aux petits commerçants indépendants, même aux franchisés dans les centres-villes. Je pense à nos PME françaises qui n'ont pas d'autre solution en termes de distribution parfois parce qu'ils ne passent pas par Amazon, parce qu'ils refusent de donner de l'argent à ce type d'entreprise. Et bien, ces gens-là vont passer à côté de la trappe. Et du coup, au mois de janvier, on va se retrouver encore avec des dépôts de bilan supplémentaires puisque la période de Noël, elle est fondamentale pour nos commerçants qui ont déjà souffert cette année. Donc, je pense que c'est peut-être que sur un plan théorique, et pour le coup, on sait que nos prix Nobel sont intelligents sur la théorie. Moi, j'ai envie de parler de pratique. Et je pense à tous ces commerçants, ces artisans qui crèvent et qui, finalement, vont passer à côté de Noël si on demande aux gens implicitement de dépenser via les réseaux et via Internet.
On est en plein dans le sujet, qui est le même pour les bars, qui est le même pour les salles de sport, qui est un peu dû en même temps. C'est-à-dire, en même temps, il faut faire attention, mais en même temps, on veut pas de ces contraintes. C'est le paradoxe. J'écoutais encore une fois Rebecca Hampton, comédienne qu'on avait ce matin, et qui disait, moi, je suis, elle était furieuse que les restaurants et les bars ferment à Marseille, et en même temps, elle disait, je mets mon masque, je mets mon gel, etc. Si on est dans la défiance vis-à-vis des mesures prises par le gouvernement, j'essaye de raisonner, dans ce cas-là, on jette son masque et son gel. Et on refuse, refuse tout.
Il y a du bon sens, Valérie. Il y a un vrai bon sens. On sait a priori que le masque protège. Le gel, c'est certain. D'ailleurs, il n'y a plus de gastro. Ça, c'est une bonne nouvelle. Il y a énormément de maladies évitées parce qu'on passait bien à se laver les masques. On ne faisait pas avant, apparemment. Mais je crois justement que il y a un véritable bon sens personnel et que le vrai problème du gouvernement, et ça, il lui en sera tenu vivement rigueur, c'est qu'ils n'ont absolument pas fait confiance aux gens. Ils passent leur vie à demander la confiance. Ils ne font pas confiance aux individus, ils ne font pas confiance aux citoyens, ils ne font pas confiance. Et donc, ils donnent des ordres un peu dans tous les sens pour répondre à une inquiétude légitime, mais ils ne réfléchissent pas. Je veux dire que les salles de sport, on sait que la meilleure des défenses immunitaires, c'est le sport et le plein air. Ça a été prouvé par les médecins. On booste ces défenses immunitaires. Ils ont dépensé des millions pour s'équiper. Je connais le Forest Hill. Ouais. Ils ont dépensé des millions pour mettre des plaques, pour mettre des gels.
Oui, limiter. C'est ce que disait Véronique de Villèle ce matin.
Pardon, oui. Et donc, ils ont fait le maximum. Par contre, on nous annonce qu'on laisse les piscines ouvertes parce qu'il y a de l'eau de Javel dans l'eau. Je veux dire que ça suffit, la bêtise. Cette incohérence, je suis sûre qu'ils veulent faire bien. Mais il y a un raisonnement politique et des ordres politiques qui sont donnés, qui faussent le bon sort, qui donnent des injonctions contradictoires et qui mettent la population hors d'elle. Et ça, on ne peut pas. On s'en aperçoit tous les jours dans les entreprises, même au point de vue économique. Maintenant, on va être passé, c'est un autre sujet, dans les compensations. Avant, il n'y en avait pas, maintenant, il y a des compensations. La compensation pour une boîte à qui on baisse les charges, c'est de ne pas faire faillite. Alors bon, on peut rentrer dans les détails, ce n'est pas le sujet. Mais il va falloir qu'ils arrêtent de dire n'importe quoi, parce que les gens ne comprennent pas. On a un service public de l'information. Pourquoi est-ce que tous les soirs, on n'a pas 5 minutes très objectives en disant, voilà, on vous explique. Si vous avez telle précaution à prendre, voilà les raisons. Oui, c'est vrai, lorsque vous êtes sur une plage et qu'il y a un vent à décorner les bœufs et qu'il n'y a personne à 50 mètres, vous ne méritez pas un PV parce que vous n'avez pas de masque. Pourquoi est-ce qu'on vous a donné autorisé à vous asseoir et que vous n'avez pas besoin de mettre un masque parce que vous êtes assis à un restaurant et que dès que vous vous levez, il faut mettre un masque. Il faut expliquer, dire aux gens que c'est dangereux souvent d'être
assis. Je crois que les gens ont compris, Sophie.
Alors, oui.
Moi, je
oui.
Crois que les gens ont compris.
Jean-Luc, ouais. Bien
moi, tellement contradictoire. Je vais donner un exemple qui est un exemple qu'on a entendu. Alors, je n'aime pas critiquer la radio sur laquelle nous parlons. Mais dans le journal de Sud Radio de 11h, le journal nous dit la métropole ex-Marseille, donc toute la métropole, c'est-à-dire quasiment le département, les bars et les restaurants sont fermés. Eh bien non, ils sont fermés à Aix et à Marseille. Mais vous allez à la Plaine-sur-Uvaune, au Plaine-Mirabeau, vous allez à Septaigne, je ne vais pas citer toutes les villes, à Martigues. Oui. Les bars et les restaurants, jusqu'à 22h, comme à Paris et ailleurs, sont ouverts. Ce qui fait que je prends mon scooter, je prends mon vélo électrique, je prends ma voiture. Si je vais au restaurant ce soir, je fais 10 bornes, je fais 5 bornes et je passe l'eau. Et donc, comment on peut comprendre que ce qui se passe à Septaigne-les-Vallons, c'est vraiment, ça touche Marseille, petite ville, mais 1000 habitants, par là, en tous les cas. Et c'est incompréhensible. Alors après, moi, je ne suis pas pour la révolte populaire. On en a parlé aussi dans le journal. Ouais. Bon, écoutez, je comprends la façon dont les cafetiers, ils ont rouvert, ils ont beaucoup d'entre eux ont fait attention aux mesures sanitaires nécessaires et ont fait comme si un certain nombre ne respectent pas, mais d'autres respectent et ont fait comme si ça ne s'était rien passé. Et je le redis une dernière fois, parce que je le dis très souvent, je trouve que nos concitoyens et même les professionnels on fait des efforts absolument extrêmement importants pour faire attention. Voilà, pour faire attention aux mesures sanitaires nécessaires et pour faire attention à ce que, avec le Covid, on ne fasse pas n'importe quoi. Voilà, donc mesures contradictoires et à un moment donné, plus personne ne comprend rien, c'est évident. Ouais.
0826 300 300 si vous voulez réagir, si vous aussi vous êtes un petit peu perdu dans tous ces ordres et contre-ordres. On y revient dans un tout petit instant avec vous sur Sud Radio. À tout de suite.
Sud Radio 10h midi, Valérie Expert, débat.
Et on est ensemble pour le 10h midi, pour le 11h midi avec les débats. Nous parlons de ces mesures, de ce tour de vis qui n'est pas toujours compris. Sacha nous dit sur Facebook, je suis contre la fermeture des restaurants et des bars. Le virus circule moins. Mais rien n'a changé dans les hôpitaux. Il manque du personnel. Des lits ont été fermés. Les tests ont été réalisés à tout va sans discernement. Et on recommence. Si tu arrives aux urgences, tu dois d'abord passer par la case Covid avant d'être pris en charge. Du coup, il y a des personnes en service Covid qui n'ont rien à y faire. Et les autres pathologies passent au deuxième plan. C'est quelqu'un qui travaille dans le secteur médical. Et c'est vrai que ce qui ressort également de ce qu'on vit aujourd'hui, c'est non seulement avec le manque de cohérence, mais c'est aussi l'impression que rien n'a vraiment été fait quand on parle avec des médecins sur le nombre de lits. Oui, Pascal Bataille.
Non, c'est exactement ça le vrai souci aujourd'hui, parce que tout le reste n'est qu'un voile de fumée, savamment d'ailleurs entretenu par les médias autour de cette problématique de
alors par les médias, je vous arrête.
Ah, Sophie, vous laissez terminer, Pascal.
Je termine juste, Sophie. Rapidement, une pseudo deuxième vague. On a eu hier 27 morts. En France, il y a un mois, le 27 août, il y avait 32 morts, d'accord ? Donc, en moyenne, on a entre 6 et 50 morts depuis le début du mois de septembre par jour. Donc, de quoi parle-t-on aujourd'hui ? On parle simplement d'une panique totale au niveau de nos gouvernants à l'idée qu'il puisse y avoir une saturation, une nouvelle saturation des services hospitaliers. C'est aussi la panique, d'ailleurs, pour le coup, compréhensible parce qu'ils ont vraiment vécu ça dans leur chair et dans leur trip, de nos personnels hospitaliers qui craignent un nouvel engorgement. Donc, pourquoi on en est là? Parce que, effectivement, au lieu de mettre tout le monde en chômage partiel, de donner des aides aux restaurants pour compenser la perte de chiffre d'affaires et de bars, etc., qu'on est en train de, ces bars et ces restaurants qu'on est en train de fermer, on n'a toujours pas donné aux hôpitaux ce plan d'urgence. On n'a toujours pas mis en œuvre ce plan d'urgence qui consisterait à redonner à l'hôpital public ses vrais moyens, sa vraie nature et sa vraie mission. On a consacré sans doute, en 2020, on aura consacré sans doute 40 milliards d'euros, les chiffres ne sont pas connus encore, mais c'est des estimations, pour financer le chômage partiel et pour les aides aux entreprises. On a le plan d'urgence annoncé par Olivier Véran au mois de juin, était royalement de 8 milliards d'euros, donc on ne sait pas encore très bien d'ailleurs comment ils seront attribués. Voilà la vraie raison de tout ça, la vraie raison qui fait qu'on nous empêche aujourd'hui de vivre normalement, alors que cette menace n'est pas si terrible que ça, il faut le redire, puisque
on voit. Mais ça, on n'en sait rien. C'est aussi ça le problème, c'est qu'on n'en sait rien de ça. Si la menace n'est pas aussi terrible que ça, c'est pas ce que disent un certain nombre de médecins.
Mais c'est pas. Oui, mais Vanessa, la vérité, elle est.
Médecins, mais encore une fois, moi, je juge sur les faits, sur les chiffres. Quand on regarde les chiffres aujourd'hui, ils n'ont rien de réellement préoccupant. Ce qui est préoccupant, c'est que notre service hospitalier n'est pas prêt, n'est toujours pas capable d'assumer. Effectivement, une vague d'hospitalisation hivernale qui pourrait être effectivement un peu conséquente. Pourquoi ? Parce que on a tellement démantibulé ce système hospitalier qu'aujourd'hui, on n'est tout simplement pas capable de faire
mais
face à un petit afflux.
Mais aujourd'hui, raison.
Il n'y a pas de drame. Il n'y a pas de drame. Alors. Simplement, l'État ne met pas les moyens là où il faut.
Alors, Sophie.
Raison. On a inondé d'argent des secteurs où on pouvait attendre et on pouvait limiter. Et puis, on peut tolérer une fois, pas deux. C'est-à-dire que la fameuse deuxième vague dont on nous parle depuis le début, dont on espère, il paraît que c'est pas la deuxième, ça va arriver, c'est pas tout à fait, c'est la première qui continue. Enfin bref, le sujet n'est pas là. Il fallait déverser des tombereaux d'argent sur l'hôpital. Et Olivier Véran, il pense beaucoup moins, si vous voulez, à protéger les Français qu'à sauver l'hôpital. Et je peux comprendre, il est médecin, il est en plus, il a la pression de tous ses pairs. Là, il y a des démissions en série, on le sait, je l'ai vérifié dans ma famille, des démissions du chef urgentiste d'un hôpital, et ce sont les médecins qui restent, qui sont parfois obligés de servir de brancardier, parce qu'il n'y en a plus, parce que les gens sont fatigués, ils ont donné leur dème. Peut-être qu'on n'a pas assez recruté, on a essayé de recruter des étudiants en médecine, ils étaient payés le prix d'une femme de ménage pour dépanner. Donc on a été complètement incompétents, et la réalité, c'est un État qui ne fonctionne pas. Cet État ne fonctionne pas, on a la preuve encore avec les tests. j'aurai une preuve à vous apporter d'ailleurs d'ici une quinzaine de jours terrifiante. On a le même système, on a mis 9 mois à avoir des masques et c'est la même chose pour les tests. Donc on a, je pense que dans le plan de relance, il fallait consacrer une très forte somme à la réforme de l'État.
Oui, et de l'hôpital. Jean-Luc Benamias.
Je le dis parce que je dis souvent ce que je fais personnellement. J'ai été pendant 6 jours d'affilée à l'hôpital. Je n'ai pas le Covid, mais j'avais autre chose de relativement important. J'ai vu des gens toujours aussi dévoués, que ce soit des aides-soignants, aux infirmiers et aux docteurs. J'ai vu des gens qui étaient déjà épuisés. C'était début septembre. Hein. Et c'est là le problème. Sophie, tu viens de parler des, par exemple, des vous savez combien sont payés les jeunes infirmiers en formation par mois? 140 euros pour aller au boulot. Les États-Unis ont 140 euros. Je veux dire, on est dans des trucs complètement fous. La structure même de l'hôpital, parce qu'on parle beaucoup de l'hôpital public qui fait ce qu'il peut, qui manque de moyens. Mais ce que je sais aussi, et ce qu'on a pu voir au niveau régional ou au niveau national, c'est que la liaison entre les hôpitaux privés et publics n'est pas vraiment faite par les ARS. Alors, la structure même de l'ARS est une... ce serait une émission à faire en entier, je pense que Sud Radio en a déjà fait d'ailleurs, là-dessus, sur à quoi servent, quelle est la structure qui permettrait aux ARS de peut-être une structure de blocage étatique et qui permette au niveau local de coordonner au niveau local les liaisons entre hôpitaux privés, hôpitaux publics, les liaisons avec les centres de formation des différents personnels utiles à l'hôpital. Voilà. En dehors de ça, je suis assez d'accord pour dire qu'il faut qu'on garde les règles sanitaires. Je pense qu'on est tous d'accord en France à 99% par rapport à ça. Mais arrêtons d'avoir des chiffres paniquants, car les chiffres, quand on les regarde, je les ai encore regardés tout à l'heure avant l'émission, ne sont pas aussi paniquants que cela. On voit bien qu'il y a une petite courbe de renaissance du Covid, mais par rapport à ce qu'on a vécu en mars, avril, mai, ça n'a strictement rien à voir.
Alors, moi, ce que je trouve terrifiant, c'est qu'on n'a pas de... Le problème, c'est qu'on ne sait pas. C'est que les chiffres, on leur fait dire un peu tout et n'importe quoi, que les médecins sont quand même totalement démunis face à ce virus. Et c'est vrai qu'on a du mal à savoir exactement.
Pas complètement démunis, parce qu'on a vu l'expérience de mars, avril, janvier, février, mars, fait que ce que j'en vois, ce que je crois en savoir, c'est que quand même, on a fait d'énormes progrès, non pas sur le traitement complet du Covid, mais sur la façon de traiter un certain nombre de malades quand ils arrivent et d'éviter que ça s'aggrave. Ça, je crois vraiment qu'on a fait des progrès par rapport à ça.
Oui, Pascal Bataille, vous voulez réagir ?
Oui, je suis pas tout à fait d'accord avec vous, Valérie, quand vous dites qu'on ne sait pas. On sait de plus en plus de choses quand même. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Jean-Luc Benamias. On sait que effectivement, on a aujourd'hui des procédures de traitement qui s'avèrent quand même très efficaces. La preuve, c'est qu'encore une fois, le nombre de morts est aujourd'hui quand même très maîtrisé. Le nombre de personnes qui arrivent en réanimation par rapport au nombre de personnes qui sont atteintes, qui sont déclarées positives, il est infinitésimal. Donc, ce qui reste à gérer, encore une fois, c'est la problématique d'un éventuel afflux de personnes dans les services hospitaliers, dans les services de réanimation, qu'on ne pourrait pas assumer et qui se ferait en plus aux dépens des autres pathologies, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a la Covid, certes, mais malheureusement, toutes les autres maladies continuent. Il y a des gens à traiter, il y a des gens qui font des crises cardiaques, il y a des gens qui ont des cancers à des stades avancés, etc., etc. Il y a des gens à greffer. Donc, tous ces gens-là, il faut continuer de pouvoir les traiter. La problématique de la Covid aujourd'hui n'est pas tant, à mon avis, mais je ne parle qu'en ayant évidemment beaucoup discuté avec des soignants, avec des sachants, etc., et puis en renseignant au maximum. La problématique ne semble pas sa dangerosité, mais encore une fois, ça, le fait qu'il est encore très contagieux, il semblerait d'ailleurs qu'il soit de moins en moins virulent et de moins en moins mortel, mais dans ses mutations actuelles. Donc la problématique n'est pas tant la mortalité, mais effectivement la façon de pouvoir accueillir les malades, les personnes atteintes, sans faire en sorte, sans faire, sans connaître une nouvelle phase de saturation. Jean-Luc, Benamias et Sophie ont rappelé à quel point, évidemment, aujourd'hui les personnels hospitaliers sont fatigués, sont usés. On n'a personne pour les remplacer, mais ça, on paye le fruit d'années et d'années d'incurie totale dans la gestion de notre hôpital. On sait aussi, effectivement, Jean-Luc l'a rappelé, qu'il n'y a aucune liaison entre l'hôpital privé et l'hôpital public, alors qu'il y aurait des tas de choses à faire, des tas de solutions à mettre en œuvre. Bon, alors c'est facile de dire il n'y a qu'un faucon, ouais. Mais en tout cas, arrêtons de paniquer les Français et arrêtons de nous empêcher de vivre. On est des personnes responsables, on l'a montré quand même globalement, et encore une fois, il n'y a pas de deuxième vague. En tout cas, nulle part, les chiffres ne montrent une deuxième vague. J'aimerais qu'on me prouve par A plus B qu'il y a une deuxième vague aujourd'hui avec les chiffres. Ça n'est pas possible parce que c'est...
Bah, on verra, moi je suis beaucoup moins définitif que vous et
je pense... Moi je suis d'accord.
Oui, non, mais moi je partage pas du tout ça, mais je pense que des médecins qui sont aujourd'hui dans des réas, dans des services, etc., et qui sont inquiets, on verra, effectivement, on n'en sait rien, ni vous ni moi, parce qu'on n'est pas spécialiste, mais j'ai tendance à écouter certains d'entre eux, et je me dis que si on a une deuxième vague, effectivement, qui arrive, ce qu'ils sont en train de prévoir, on sera...
Si ça va très mal, ça ira très mal. Mais ce qu'il faudrait voir...
Oui, mais je trouve pas très responsable de dire il est circulé, il n'y a rien à voir. Dans ce cas-là, je reviens à ce que je disais au début. Dans ce cas-là, dans ce cas-là, vous jetez vos masques et vos gels et vous ne prenez plus de mesures de distanciation.
Non. Valérie, je vous donne un exemple. Les campus aujourd'hui, j'ai plein de jeunes qui ont 18, 19 ans qui sont sur les campus, qui me disent qu'il n'y a aucune espèce de vérification d'aucune sorte. Ils sont là, ils font la brinque sur les campus des écoles. Il n'y a pas de masque, il n'y a rien du tout. Ce que je veux dire, c'est que c'est complètement anachronique et aléatoire. Donc oui, il faut faire attention, pas n'importe où, il ne faut pas aller emmerder la malheureuse femme qui fait ses courses et qui n'a pas son masque pendant 3 minutes dans une rue quasi déserte. Il devrait y avoir des contrôles. Je suis désolée, il devrait y avoir des inspecteurs qui vont dans un campus et qui font des semences. C'est comme dans les salles de sport. Il y a des salles de sport qui sont très équipées, d'autres qui sont toutes petites. Eh bien, qu'on envoie un petit peu des contrôleurs quand on est bien équipé.
Il n'y a pas de contrôleurs, il n'y a pas ce budget-là. Alors, Benjamin Cauchy, que vous avez perdu.
Non, je suis toujours présent, je vous écoute avec attention. Moi, ce qui me gêne profondément dans la stratégie du gouvernement, c'est cette stratégie du stop and go, cette stratégie du yo-yo. Il y a beaucoup de pays qui en sont revenus, je pense à la Belgique, à la Suède, même à l'Allemagne, où l'objectif n'est pas de freiner complètement l'activité économique et de paralyser également toutes les autres pathologies dans les centres hospitaliers, mais d'avoir une stratégie de moyen et long terme et d'apprendre à vivre avec ce virus en attendant de trouver des solutions. Ils n'ont absolument rien préparé pour l'hôpital. Je vous donne un exemple concret. En Guadeloupe, au CHU de Pointe-à-Pitre, ils ont accru le service Covid en squattant un réfectoire du centre hospitalier. Toutes les mesures qui sont mises en place n'ont pas l'acceptation de la population. Et c'est pour ça que c'est extrêmement difficile, parce qu'ils infantilisent et il y a une stratégie extrêmement jacobine. Et le problème des Marseillais, au-delà du fait que le ministère de la Santé soit à Paris et que les Marseillais ont toujours un petit problème avec les Parisiens, ça c'est pour la boutade, c'est qu'il n'y a pas eu de concertation. Et les Marseillais, les commerçants marseillais sont aussi intelligents que les autres en France et sont prêts à appliquer des mesures de bon sens à condition qu'elle soit acceptée. Et ce deux poids deux mesures n'est pas bon. Et quand il n'y a pas d'acceptation, quand il y a un climat anxiogène qui fait une chape de plomb sur la vie économique, sur la vie sociale, les gens ne vont pas l'accepter. Les Français sont rebelles, les Français sont des Gaulois réfractaires. Il va bien falloir qu'un jour, Monsieur Déconfinement, devenu Premier ministre, le comprenne. Donc, comment voulez-vous qu'un restaurateur puisse décider de se projeter à moyen terme s'il ne sait pas si vendredi il va pouvoir aller faire des courses au marché d'intérêt national auprès de ses producteurs, mais si on lui dit qu'il va fermer à 20h, parce qu'il n'en sait rien aujourd'hui. On lui dit 22h aujourd'hui, ça sera peut-être 20h demain. Donc, le problème, il est là.
quel est le niveau de gestes barrières et de mesures contraignantes que la population est prête à accepter de façon à ce que cette stratégie de gestion du virus ne soit pas celle du gouvernement imposé, mais soit celle de tout un peuple entier qui se dit on va mener front contre ce virus et nous allons chacun ensemble faire cela. Et pour ça, il faut que l'État arrête d'infantiliser les Français, arrête d'infantiliser les acteurs économiques, arrête de se foutre de la gueule du monde de l'hôpital, parce que Jean-Luc l'a dit, Pascal l'a dit, Sophie l'a dit, vous l'avez tous dit, les moyens ne sont pas arrivés. Il y a des gens qui sont en burn-out à l'hôpital. Les services de réa n'ont pas été réaugmentés. Donc rien n'a été fait pour l'hôpital.
Pourquoi ? Est-ce que quelqu'un ici sait pourquoi ? C'est pourtant basique. Pourquoi ils n'ont pas fait ça? On a une épidémie effroyable, c'est une pandémie mondiale.
Ils sont amateurs et incohérents.
Pourquoi?
Allez, on va marquer une pause. On aura un auditeur avec nous, 0826 300 300. À tout de suite.
Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Débat.
Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, vous retrouverez ensuite André Bercoff. On a un auditeur en ligne avec nous, Erio, qui nous appelle. Bonjour de Perpignan.
Oui, bonjour. Oui, je souhaite intervenir sur le débat. Je rappelle que c'est vrai qu'on infantilise les Français, et c'est dû essentiellement aussi aux médias, qui répercutent les fausses informations. Là, je prenais le site de l'INSEE qui stipule qu'entre le 1er mai et le 20 septembre, il n'y a pas eu plus de morts en France que l'année dernière ou l'année précédente. Ce qui veut dire qu'il n'y a jamais eu de deuxième vague, il n'y aura jamais de deuxième vague, étant donné que le virus s'est atténué.
Oui.
Et que, voilà.
Non, Sophie, on est à l'antenne. Si vous pouviez répondre au téléphone à un autre moment, ce serait bien.
Non, pardon, c'est le studio, ma chère Valérie. Le studio.
Ah, et en plus... Et en plus, là, j'ai entendu l'Inde ce matin, chiffre catastrophique. Alors, je rappelle quand même que l'Inde, c'est 1,3 milliard d'habitants, que si on ramène le chiffre qu'ils ont, je sais plus, 95 000 décès, si on le ramène à notre pays, ça fait 420 000 décès chez nous en France. Et si on ramène le pays par rapport à nos chiffres en France, ils auraient eu 15 000 morts, voilà. Donc il faut relativiser, et puis voilà, on infantilise donc les Français, et ce que je disais au début...
Mais à quelle fin, pourquoi le gouvernement, si vous poursuivez votre pensée, pourquoi le gouvernement infantiliserait les Français, dans quel but?
C'est une décision des entreprises.
Économiques qui sont en train de foutre l'économie en l'air. Enfin, pardon,
c'est un intérêt mondial. Si vous reprenez le CAC 40, les entreprises n'ont jamais eu l'augmentation du CAC 40 depuis qu'on est en crise. Hein. Donc, il y en a peut-être qui sont... qui ont des problèmes, mais il y en a d'autres qui, derrière, empochent.
Et non, pardon, aussi... je crois que c'est...
Alors, Sophie va répondre. Merci, Rio, de votre appel. Oui, Sophie.
Oui, objectivement, je pense que le gouvernement a fait ce qu'il fallait économiquement au début. C'était surtout les PME qui étaient très, très en danger. Je pense qu'ils ont essayé. Non, moi, je pense que c'est plus grave que ça par rapport à ce que disait notre auditeur. C'est que c'est un réflexe. L'État ne sait pas faire autrement. Mais nous savons ce que nous avons mérité. Nous voulons un État nounou. L'État doit tout faire. On paye pour ça. Alors du coup, comme on paye beaucoup d'impôts, plus que n'importe où dans le monde, on en demande beaucoup. On n'a pas ce qu'on veut. Alors, on a un État obèse la problématique est là. Ils ne savent pas faire autrement que d'imposer, et ils ont l'impression que c'est leur devoir parce qu'on leur demande tout. Et nous sommes arrivés au bout d'un système. On ne fait pas confiance à la responsabilité individuelle des Français. On ne les laisse pas agir comme ils le souhaitent. Tout est réglementé, que ça va des 5 fruits et légumes qu'il faut manger par jour, bientôt du sport, de ce qu'on doit faire, lire, etc. Ils ont un réflexe. Mais là, ça ne marche pas. Et donc, en plus, ils ont mal jugé sur quoi il fallait investir. Et bien évidemment, on est incapable de faire les efforts qu'il faut pour se réinformer soi-même. Donc, si vous voulez, ce virus et cette pandémie ont révélé la crise profonde de l'État français, qui ne peut plus être cet État tentaculaire, qui nous prélève beaucoup d'argent et qui ne rend pas les services en face qu'on attend d'eux et qui nous met en position même difficile en matière de compétition internationale.
Alors, enfin, on a quand même, Valérie,
Pascal avait pris la parole avant.
Oui, juste un mot, pardon Jean-Luc, juste un mot, parce que vous avez dit tout à l'heure, circuler, il n'y a rien à voir, c'est certainement pas ce que je dis. Je dis juste qu'il faut mettre les moyens au bon endroit, ça prend du temps évidemment, c'est pas du jour au lendemain qu'on va redonner aux services hospitaliers les moyens de faire face aux afflux de malades et de répondre aux besoins des Français, mais en tout cas il faut le faire dès maintenant, il faut commencer dès maintenant à redonner de l'argent aux services, à rouvrir des nouveaux lits de réanimation notamment, il faut le faire et pour l'instant on ne voit toujours rien se produire et ça les médecins en témoignent tous les jours depuis le mois de mai et ça c'est très inquiétant. Et par ailleurs je ne veux pas dire que ce virus n'est pas inquiétant, mais regardez la Suède, Monsieur Cauchy en parlait tout à l'heure. La Suède, vous savez combien il y a eu de morts ce week-end, la Suède qu'on a mis au pilori pendant l'été en disant qu'ils avaient une stratégie de gestion de la crise absolument abominable, en croyant à l'immunité collective. Eh bien, il y a eu ce week-end royalement 2 morts en Suède pour une population de 10 millions d'habitants, dont 85% vit en zone urbaine. Alors, excusez-moi, mais je ne suis pas sûr, encore une fois, qu'il faille continuer de raconter des falaises, qu'il faille continuer de nous alarmer, alors que les exemples sont là, ailleurs, dans d'autres pays, pour montrer que notre stratégie n'est pas la seule possible.
Je ne sais pas si vous avez regardé les infos, mais en ce qui concerne la Suède pourrait prendre des mesures de restriction locales. La situation est particulièrement inquiétante. Le taux de positivité est passé de 1,3 à 2,2 en une semaine. Donc, le ministre de la Santé, je m'inquiète d'une deuxième vague. Donc, la situation en Suède n'est pas exemplaire non plus. C'est ça qui est très compliqué. Ce que nous dit également un auditeur, on ne sait pas, Xavier nous dit, surtout le corps médical est partagé sur tout, le virus a muté ou pas. Deuxième vague ou pas, et puis il signale, alors il met un petit peu tout, mais c'est vrai que tout est lié, pas de contrôle réel dans les aéroports, et je voyais que dans les piscines, les clubs sportifs ont le droit de continuer, donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est là où c'est incohérent sur les mesures. Alors pardon Jean-Luc,
ce qui reste incohérent, et on le voit malheureusement tous les jours, c'est qu'on se demande s'il y a une coordination gouvernementale entre les différents ministres, quel qu'il soit. Quand on regarde les contradictions totales qu'il y a entre le ministre de l'Éducation nationale, qui dit dans la semaine, on va adoucir les mesures par rapport au nombre de Covid qu'ont les jeunes en école primaire. Passe de 2 à 3 pour fermer une classe ou pas la fermer. La coordination n'existe plus. Regardez, je suis comme tout le monde, je pense que j'ai au moins suivi de près ou de loin les missions où le Premier ministre était là. On nous demande, ce que très peu de gens ont fait en France, de mettre sur nos portables l'application Covid. Mais eux-mêmes ne le font pas, ils n'y vont pas. Et ils nous expliquent, le Premier ministre, pire que ça, que pourquoi il ne le fait pas? Alors là, c'était énorme. Ouais. Je sais qu'on en a déjà parlé, mais je le répète.
Il ne prend pas le métro.
C'est vrai. Parce qu'il ne prend pas le métro, ce qui est complètement... Alors qu'il rencontre, c'est peut-être une des personnes qui rencontre le plus de monde.
C'était monsieur des confinements, quand même.
J'arrête là.
Vous avez raison, Benjamin.
Vous avez autre chose qui est encore pire, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, on lui a demandé si les piscines allaient fermer. Il a dit non. Uniquement les piscines fermées vont fermer, les piscines de plein air vont rester. Le temps qu'il fait, c'est bien. Et ils ont dit les piscines fermées vont fermer. Et on nous a dit aujourd'hui que non, les piscines allaient rester ouvertes. Donc c'est vrai que c'est aberrant.
Ouais, c'est
dans une entreprise. Dans une entreprise, on ne pourrait jamais gérer une boîte comme ça. Si j'allais dire au
marketing, Benjamin Cauchy,
c'est
quand même un minimum.
Oui. Allez, je vais interrompre Sophie, mais pour aller dans son sens. Culturellement, les Français ont été habitués à être biberonnés par l'État. Et c'est une catastrophe, parce que l'État, du coup, pense qu'elle doit tout faire, que l'État doit tout faire, mais finalement, en voulant tout faire, on fait rien de bien. Dans une entreprise, quand un chef d'entreprise ne se fait pas déléguer, y a rien qui avance. Dans une équipe, quand on ne se fait pas déléguer, il n'y a rien qui avance, rien qui se fait de bien. Et on frustre tout le monde, en plus. Donc, moi, je pense que la première chose que le gouvernement a à faire, et ça, pour le coup, Édouard Philippe avait eu, vous voyez, comme je peux être un peu objectif de temps en temps, avait eu l'honnêteté de dire qu'il ne savait pas. Eh bien, moi, je pense que M. Castex devrait avoir cette honnêteté intellectuelle, non pas de dire « je sais tout et je vais tout régler », et d'être dans cette culture d'infantilisation, mais d'être de dire « je ne sais pas, mais avec les collectivités territoriales, avec les acteurs locaux, économiques, sociaux, médicaux, nous allons faire du cas par cas. »
Oui, du enfin, cas vous avez vu ce qui s'est passé à Marseille. Ils ne l'ont pas fait à Marseille, ils ont fait l'inverse à Marseille.
Bien sûr que non, mais ils se tirent une balle dans le pied. Nous sommes gouvernés par des technos. Moi, j'adore les... Ok, j'adore les technos quand ils sortent des trucs intelligents, mais là, en l'espace de moins d'une heure, on vient de parler de la famille de la technocratie, un des prix Nobel qui nous sort des trucs du chapeau alors qu'ils sont complètement déconnectés de la réalité économique et de la réalité de nos pays, et deuxièmement, on parle d'un gouvernement, un gouvernement qui est déconnecté. Alors, on peut prendre l'accent dans du Sud-Ouest, on est sur Sud Radio, moi aussi je peux m'amuser à prendre l'accent du Sud-Ouest, c'est-à-dire les Françaises et les Français, si vous voulez, mais en attendant, les Françaises et les Français de l'Aude et de l'ensemble du Sud-Ouest, ils sont pas concertés. Donc voilà. Ouais. Donc moi j'invite M. Castex à un peu plus d'humilité et à d'aller au lieu de dire la décentralisation des territoires, arrêter de parler des territoires, mais de laisser parler les territoires.
On n'a pas eu le temps d'aborder le sujet de ce qui s'est passé vendredi, agression, attentat contre les anciens locaux de Charlie Hebdo avec ce jeune Pakistanais, 18 ans, qui en fait apparemment, on ne sait pas à quel âge il a réellement, mineur isolé dont les juges ont refusé de tester l'âge lors d'une première infraction. La menace terroriste est toujours là et en lien avec le Covid, moi je remarque que dans les magasins, il n'y a plus aucun contrôle des sacs. Et que, effectivement, comme le dit le ministre de l'Intérieur, ce qui est un petit peu dommage, on a un peu oublié la menace terroriste. C'est ce qu'il a dit très exactement. Un mot, vous êtes. Pascal.
Oui. Moi, je pense que là aussi, on nous fait peur. On nous fait peur et on déplace le problème et on ne parle pas français. Aujourd'hui, je pense que les services de renseignement font de l'excellent boulot. On le voit puisque quand même, globalement, il n'y a pas eu d'attentat et heureusement important depuis plusieurs années. C'est un acte isolé. Il faut savoir dire qu'on n'aura jamais la possibilité d'empêcher ces actes isolés d'un bras cassé comme ça.
Il va falloir conclure.
Mais une petite question quand même, parce qu'on on a pris ce flagrant délit et j'ai entendu ce matin, on lui prolonge sa garde à vue. Est-ce que ça veut dire qu'après sa garde à vue, on va le libérer ?
On prolonge la garde à vue
parce que c'est une enquête terroriste et que ça peut dépasser les 96 heures.
Qu'est-ce qu'on en fait après ?
Tant qu'on comprendra pas les frontières. Quand on ne contrôlera pas les frontières, d'une part, et que les services de renseignement territoriaux ne seront pas redéveloppés, on leur fait confiance, il faut plus de RG sur le terrain pour détecter et déceler les ennemis de l'intérieur.
Très bien. Et Xavier pose une question sur Twitter. Pourquoi ce Pakistanais était chez nous alors que le Pakistan n'est pas en guerre ? Ça pose aussi la question des migrants et des causes pour lesquelles elles sont là. Mais c'est un autre débat. Je vous vois hocher la tête, Jean-Luc, mais on n'a pas le temps. Merci à tous les quatre.
C'est parce qu'il est d'accord avec nous, Jean-Luc. Il commence à...
Voilà. Bon. Dans un instant, c'est André Bercoff qui sera avec vous. Très bonne journée sur Sud Radio.